Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 30 septembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Washington ordonne aux familles de son personnel diplomatique en RDC de quitter le pays.
Au Congo-Brazzaville, au moins 4 militaires ont été tués cette semaine dans le Pool, dans le sud du pays.
Au Gabon, Jean Ping réclame des sanctions internationales ciblées contre les auteurs de ce qu'il a appelé un coup d'État militaro-électoral.
Syrie, Barack Obama et Angela Merkel condamnent avec force, je cite, les raids aériens barbares des Russes et du régime syrien sur l'est d'Alep.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les États-Unis ont ordonné aux familles du personnel diplomatique américain en poste en République démocratique du Congo de quitter le pays en raison d'une recrudescence des violences. C'est ce qu'a annoncé hier soir le département d'État. Le risque de troubles civils est élevé à Kinshasa et dans d'autres grandes villes, estime le département d'État dans un communiqué. En raison de la détérioration de la situation sécuritaire, les membres des familles du personnel gouvernemental américain ont reçu l'ordre de quitter le pays à partir du 29 septembre.
Au moins 4 militaires ont été tués depuis le début de la semaine dans le Pool, dans le sud du Congo-Brazzaville, lors d'accrochages avec les ex-combattants ninjas de l'ancien chef rebelle Frédéric Bensamou, alias Pasteur Ntoumi. C'est ce qu'on a appris hier de sources policières et militaires. Le point, Nanit Talani.
Deux militaires ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'il convoyait une ambulance transportant des malades partis de Kinkala, le chef-lieu du Pool, et évacués sur Brazzaville, selon le capitaine Patrick Okomo, un des responsables des opérations de l'armée dans la région du Pool. Deux autres militaires ont perdu leur vie lundi à Kimbedi, dans la même région, après l'attaque par les ex-combattants ninja d'une base que ces militaires gardaient, a ajouté M. Okomo, sans donner de chiffres du côté des assaillants. Pour le colonel Jules Mokalachumu, porte-parole de la police, le Pool est en train de vivre une situation dramatique et les populations subissent des atrocités à huis clos. Toutes les tentatives pour joindre le camp du pasteur Ntoumi sont demeurées vaines. Les affrontements des derniers jours entre forces loyalistes et ex-combattants ninja ont provoqué un exode massif des populations du Pool, notamment sur l'axe Brazzaville-Kinkala, où plusieurs villages ont été vidés de leurs habitants, a rapporté un journaliste de l'AFP. Le ministère de l'Action humanitaire ignore pour le moment le nombre de personnes déplacées.
Au Gabon, l'opposant Jean Ping a demandé hier à la communauté internationale de prendre des sanctions ciblées contre les responsables de ce qu'il a appelé un coup d'État militaro-électoral. Il a réaffirmé qu'il ne reconnaîtrait pas le pouvoir d'Ali Bongo. Des détails avec Eric Manirakiza.
Jean Ping, hier, a répété qu'il est le président élu. Il a appelé la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées contre ceux qui ont perpétré un coup d'État militaro-électoral, notamment à travers le gel de leurs avoirs à l'étranger et des interdictions de voyager. Il a appelé à observer le 6 octobre une journée nationale de recueillement pour nos morts, tués par ce pouvoir, durant les violences qui avaient suivi l'annonce des résultats provisoires en faveur du président sortant le 31 août. Il a répondu clairement qu'il n'ira à aucun dialogue sous l'égide d'un imposteur en référence à la main tendue d'Ali Bongo. Le nouveau Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé a annoncé hier la formation de son gouvernement d'ouverture pour dimanche. Il a été nommé la veille au lendemain de la prestation de serment du président Ali Bongo Ondimba, 57 ans, pour un second mandat de 7 ans.
Le président ghanéen John Dramani Mahama, accusé d'avoir reçu une voiture en contrepartie d'un contrat lucratif, a été exonéré hier, le jour même où il a présenté sa candidature officielle pour l'élection présidentielle de décembre. Les précisions de John Linden.
La Commission des droits de l'homme et de la justice administrative a rapporté que les suspicions de conflit d'intérêts contre M. Mahama n'étaient pas prouvées. Une enquête plus poussée n'est donc pas justifiée. Le gouvernement n'a jamais nié avoir reçu un 4x4 de la part d'une entreprise de construction du Burkina Faso qui avait gagné l'appel d'offres pour reconstruire le mur d'enceinte de l'ambassade du pays à Ouagadougou. Mais il nie que ce cadeau ait été un moyen de sécuriser un autre contrat pour la construction d'une route dans la région ghanéenne de la Volta et affirme que le véhicule a rejoint le parc automobile du gouvernement. Le scandale, révélé par un journaliste d'investigation anonyme, avait déclenché une grande vague d'indignation dans le pays. M. Mahama, qui représente le parti du Congrès national démocratique, est candidat à sa propre succession et a soumis sa candidature hier à la commission électorale. L'élection présidentielle aura lieu le 7 décembre prochain.
Le ministre soudanais de la Justice, Awad Hassan El-Nour, a rejeté les affirmations de personnes déplacées de la région de Jebel Mara au Darfour, selon lesquelles elles ont été victimes d'attaques chimiques perpétrées par le gouvernement de Khartoum. Ces accusations sont contenues dans un rapport d'Amnesty International publié hier et qui estime qu'entre 200 et 250 personnes ont pu mourir d'une exposition aux agents chimiques, pour beaucoup, voire pour la plupart, des enfants.
En Égypte, une voiture piégée a explosé hier dans la banlieue du Caire après le passage du procureur général adjoint. Il s'en est sorti indemne, mais un passant a été blessé, selon le ministère de l'Intérieur. Dans les mois qui ont suivi la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, l'Égypte a connu une vague d'attentats djihadistes meurtriers visant principalement ses forces de l'ordre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et la Russie sont au bord de la rupture sur le conflit syrien. Washington menace d'arrêter sa coopération diplomatique et Moscou réplique n'avoir aucune intention d'interrompre la guerre malgré la catastrophe humanitaire à Alep. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le président Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel ont condamné jeudi avec force, je cite, les raids aériens barbares des Russes et du régime syrien sur l'est d'Alep, une zone où habitent des centaines de milliers de civils, dont la moitié sont des enfants. Lors d'une conversation téléphonique rapportée par la Maison-Blanche, les deux dirigeants alliés ont convenu que Moscou et Damas portaient une responsabilité particulière pour mettre fin au combat en Syrie et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire de l'ONU aux zones assiégées et difficiles d'accès dans le pays. Auparavant, le secrétaire d'État John Kerry avait une nouvelle fois menacé la Russie de geler leur dialogue diplomatique si le carnage d'Alep ne prenait pas fin. À Moscou, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a immédiatement répliqué, je cite, que le meilleur cadeau aux terroristes sera le refus de Washington de coopérer avec la Russie pour un règlement du conflit en Syrie.
Le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné hier l'adoption aux États-Unis d'une loi autorisant les familles des victimes des attentats du 11 septembre 2011 à engager des poursuites pour réclamer des dommages au royaume wahhabite. L'érosion de l'immunité des États aura un impact négatif sur tous les pays, y compris les États-Unis, a déclaré le ministère dans un communiqué transmis par l'agence de presse officielle, évoquant un sujet de grande inquiétude. À noter qu'ici à Washington, les présidents des deux chambres du Congrès ont ouvert la voie à une modification du texte pour dissiper les inquiétudes quant à ses conséquences pour les expatriés.
Des dizaines de dirigeants du monde entier sont réunis aujourd'hui à Jérusalem sous protection policière maximale pour les obsèques de l'ancien Premier ministre et président d'Israël, Shimon Peres, lauréat du prix Nobel de la paix. Pour rendre un dernier hommage à Peres, le président Barack Obama, ses homologues français et allemands, le prince Charles, le roi d'Espagne, mais aussi le président palestinien Mahmoud Abbas, rare représentant de haut niveau du monde arabe, et bien d'autres dignitaires, dont l'ancien président américain Bill Clinton.
Ici, aux États-Unis, un train de banlieue a défoncé hier à l'heure de pointe la gare très fréquentée d'Hoboken dans le New Jersey, près de New York, faisant un mort et 114 blessés, selon un nouveau bilan. Le train est entré dans la gare à une vitesse élevée, a confirmé dans l'après-midi le gouverneur du New Jersey, Chris Christie. M. Christie a plus tard révisé à la hausse le nombre de blessés à 114. Il a refusé de spéculer sur les causes du drame 10 jours après les attentats de New York et du New Jersey qui ont fait 31 blessés. Il a simplement souligné n'avoir aucune indication que ceci puisse être autre chose qu'un accident tragique.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
Le taux de croissance de l'Afrique subsaharienne devrait continuer de baisser à 1,6% en 2016, son niveau le plus bas depuis 20 ans. En 2015, il avait ralenti à 3%. Les difficultés économiques rencontrées par les principales économies de la région, le Nigeria et l'Afrique du Sud en l'occurrence, expliquent ce ralentissement. En juin, la Banque mondiale tablait sur une croissance moyenne de 2,5% en Afrique subsaharienne en 2016. Les pays de l'OPEP sont parvenus à Alger à un accord surprise pour réduire la production d'or noir entre 32,5 et 33 millions de barils par jour. Presque immédiatement, le prix du brut a rebondi pour atteindre 50 dollars le baril. La production et les exportations de cacao de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ont baissé de plus de 12%, passant de 1791 millions de tonnes lors de la campagne 2014-2015 à seulement 1565 millions de tonnes pour la campagne 2015-2016. Par ailleurs, le prix minimum garanti du kilogramme de cacao a été fixé à 1100 francs CFA pour la saison 2016-2017. La croissance de l'économie américaine a été un peu meilleure que prévu au deuxième trimestre selon la troisième estimation du département du commerce. Entre avril et juin, le produit intérieur brut des États-Unis a cru de 1,4% contre seulement 0,8% au premier trimestre.
Les sports à présent avec Timothée Donangmaï. Timothée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Retour sur les matchs de l'Europe League de jeudi.
Défaite d'entrée de jeu 1-0 par Feyenoord, le Manchester United de José Mourinho s'est racheté en battant sur sa pelouse les Ukrainiens de Zorya Lugansk 1-0. But de Zlatan Ibrahimovic sur une balle et un rebondi sur le genou de Wayne Rooney. De son côté, Feyenoord s'est incliné sur le même score sur la pelouse de Fenerbahçe. L'Inter Milan, l'équipe de Franck de Boer, créditée d'un bon début de championnat troisième, est tombée à Prague jeudi 1-3 face au Sparta local. L'AS Rome a rebondi à domicile 4-0 contre les Roumains d'Astra Giurgi. Et puis carton de la Fiorentina 5-1 sur sa pelouse, c'était face à Karabakh d'Azerbaïdjan, dont deux buts du Sénégalais Kouma Babacar. Et puis Mario Balotelli a marqué jeudi, mais n'a pas pu empêcher la débâcle de Nice 5-2 face aux Russes de Krasnodar.
Un Guinéen à la FIFA.
Almami Kabele Kamara a été élu membre du conseil de la FIFA, le comité exécutif qui dirige, avec Gianni Infantino à sa tête, le football mondial. Cette élection s'est faite au Caire par les membres de la CAF qui ont aussi désigné Kwesi Nyantakui du Ghana. L'ancien ministre de la Défense guinéenne et actuel vice-président de la CAF doit son élection à ses bonnes relations avec Issa Hayatou.
Ici aux États-Unis, deux nouveaux chapitres dans la vie du franco-américain Joachim Noah.
Oui, Idrissa est le premier, celui qui le rend très heureux, c'est qu'il est depuis mardi père d'une petite fille. Deuxième chapitre, il porte le maillot d'un nouveau club, les Knicks de New York, la ville qu'il a vu naître et où il espère s'illustrer après avoir passé 9 ans avec les Bulls de Chicago.
La Californie met le paquet pour les Jeux Olympiques de 2024.
C'est une enveloppe de 250 millions de dollars que ce grand État de la côte ouest des États-Unis a mis à la disposition de sa ville candidate Los Angeles. Il s'agit d'un fonds de garantie destiné à couvrir un éventuel déficit. Le budget de Los Angeles pour les Jeux de 2024 ne sera connu qu'en février, mais ses rivales européennes ont déjà annoncé les couleurs. 3,2 milliards d'euros pour Paris comme Rome et 2,4 milliards d'euros pour Budapest.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia, en votre compagnie, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, levée du deuil de 3 jours organisée en mémoire des victimes des affrontements qui ont opposé au début de la semaine dernière les forces de l'ordre à des manifestants. Ces protestataires réclamaient la tenue de l'élection présidentielle avant le 19 décembre et le départ du président Joseph Kabila à cette date. À noter aussi que l'opposition a déclaré rejeter les 5 000 $ de prise en charge que le pouvoir propose à chaque famille de victimes de ces violences. Eddy Issango a joint le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Jean-Marc Kabound à Kabound.
Nous avons levé le deuil comme prévu. C'était d'une manière symbolique, comme il est de coutume chez nous en Afrique. Nous l'avons fait à l'ensemble de notre permanence parce que c'est à l'intérieur de la permanence du parti où nos combattants ont été sauvagement tués.
Est-ce que les membres de famille ont eu accès aux dépouilles de leur poche?
En fait, nous n'avons pas exposé le corps. L'enterrement suivra, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez confirmer si les membres de famille des victimes ont eu cette proposition de la part du gouvernorat de Kinshasa qui leur propose 5 000 $ en réparation?
La mairie a proposé 5 000 $ à chaque famille. Cela s'apparente vraiment à une provocation. C'est très cynique, cela, parce que l'État congolais qui ne peut pas en même temps tuer et en même temps vouloir organiser les deuils des gens tués. Donc, nous, à l'UDPS, nous avons dit qu'il ne sera pas question que le gouvernement qui a tué nos combattants puisse prendre en charge, même pour 1 franc congolais. Nous allons nous-mêmes prendre en charge nos combattants et nous allons les enterrer dignement. Ce qui concerne les combattants de l'UDPS, que nous avons répertoriés, nous sommes en contact avec les familles. Personne n'en est allé là-bas toucher les 5 000 $. J'ai entendu le gouverneur se plaindre. Nous avons suivi cela par la voix des hommes. Nous avons aussitôt répliqué aussi par la voix des hommes qu'il était hors de question que nous puissions accepter une quelconque aide venant d'un pouvoir barbare, voyou et délinquant qui tue et qui prétend pas venir en aide aux familles des victimes. C'est un non-sens, cela. Il se plaint du fait que nous n'avons pas accepté l'offre, nous n'avons pas accepté de collaborer par rapport à la prise en charge des victimes. C'est grave, ça. C'est la preuve même que ces pouvoirs se reposent de quelque chose. Ils prétendent honorer ceux qui sont morts, mais nous avons dit que honorer les morts aujourd'hui, c'est demander à M. Kabila de respecter la Constitution, d'écouter le pouvoir le 19 décembre, parce que ceux qui sont morts parce qu'ils exigeaient le respect de la Constitution, ils exigeaient le départ de M. Kabila le 19 décembre, et plus rien d'autre. Les morts aujourd'hui n'ont pas besoin de 5 000 $, mais ils ont plutôt besoin d'aller au repos éternel, d'apprendre que la cause pour laquelle ils sont morts a été entendue.
Que dites-vous des condamnations? Il y a eu déjà les premières condamnations allant de 5 mois à 25 ans de prison.
Je crois que les condamnations de 5 ans ne pourront pas effrayer le peuple congolais qui est à la quête de la démocratie, à la quête de l'alternance dans ce pays. S'ils veulent nous arrêter, nous, les responsables politiques du Rassemblement, à connaître une forte raison aux militants qui ont été arrêtés par-ci, par-là.
Jean-Marc Kabound à Kabound, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à Kinshasa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Burkina Faso, le président ROC Marc Christian Kabore a installé dans leurs fonctions hier les membres de la commission constitutionnelle nommée il y a 3 mois, les résultats de leurs travaux qui vont permettre de passer à la 5e République sont attendus dans 60 jours. Le point avec Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
En installant les 92 membres de la commission constitutionnelle, le président du Faso, ROC Marc Christian, leur a dit ceci.
Il nous faut des institutions fortes qui survivent à leurs géniteurs et dont la qualité du consensus national nécessaire pour en fixer les bases permette de garantir leur capacité à renforcer la cohésion sociale, à consolider l'unité nationale et à promouvoir la paix et la stabilité. Faire de l'élaboration de l'adoption de la Constitution de la Ve République une autre victoire importante du peuple burkinabé dans sa quête de démocratie et de progrès.
Le temps imparti pour sortir l'avant-projet de Constitution est de 2 mois. N'est-ce pas un peu juste? C'est la question que nous avons posée à Alidou Ouédraogo. Il est le président de la Commission constitutionnelle.
Il nous a donné 2 mois pour achever notre travail. C'est pour installer la loi fondamentale, le socle. Notre priorité, c'est de nous asseoir, de nous installer et de commencer le travail tout de suite. On va dessiner les grandes lignes. C'est d'obtenir un texte conforme à l'aspiration de notre peuple. Et en fait, nous avons les matériaux aussi légués par nos prédécesseurs et les peuples du monde. Et vous avez vu que c'est toute la quintessence même des panoplies de notre peuple qui est réunie là. Et nous pensons qu'on va sortir quelque chose de potable.
Qu'attendre de la nouvelle constitution en préparation? Suivant Chrysogone Zoukmouré, le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme.
L'élément essentiel sur lequel il faudra veiller et mettre l'accent, c'est celui de la séparation effective des pouvoirs, notamment du pouvoir judiciaire. Parce que comme vous le savez, dans tout état de droit moderne qui se respecte, la justice constitue le régulateur des tensions sociales. Lorsque la justice ne fonctionne pas, toutes les voies sont ouvertes à toutes les dérives possibles.
Pour Smokey, artiste, musicien et responsable du ballet citoyen, voici comment il voit la nouvelle constitution.
L'article 37, ça, on débat même pas, ça, on discute pas. Ça, c'est quelque chose qui doit être sacralisé, verrouillé, collé, stocké, soudé, de façon à ce qu'on ne puisse plus jamais le faire, même si on est tenté de le faire. Bon, ensuite, il y a quand même des réformes plus profondes. Peut-être améliorer aussi ce code minier-là. Il y a déjà eu des gains qui ont été faits. Mais il serait bien qu'il y en ait encore plus et surtout qu'il y ait une loi qui permette de faire le suivi réel de ce que ces contrats-là apportent vraiment aux populations et au niveau régional surtout.
Sur la nécessité de faire une nouvelle constitution, écoutons ce qu'en dit Juliette Bonkougou. Elle est députée du parti de Blaise Compaoré.
En dehors de considérations politiques, juridiquement, je pense que ce n'était pas indispensable. Mais je suis une femme politique. Et je peux comprendre également que les gens aient besoin d'une symbolique nouvelle. Parce qu'on ne peut pas, comme par fiction, faire comme si l'insurrection n'a pas eu lieu. Donc, je peux comprendre la préoccupation sur le plan politique, mais s'il s'agit du droit stricto sensus, je dis que ce n'était pas indispensable.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Rebond des cours du pétrole brut sur les marchés mondiaux après la décision prise mercredi soir à Alger par les pays de l'OPEP de réduire leur production. Reste à savoir combien de temps va durer l'embellie et quelle sera la réaction des producteurs de pétrole hors OPEP, notamment les producteurs américains. Au micro de Timothée Donangmaï, l'analyste Michael Kevin, professeur d'économie à l'Université de Santa Clara, en Californie.
Vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, le prix était à peu près 100 dollars par baril. Et de nos jours, c'était réduit à 45 dollars par baril. Donc, avec l'annonce de la réduction, le prix a monté. Et je pense que l'Arabie Saoudite veut stabiliser le prix du pétrole à un prix de 47-50 dollars par baril.
Alors, c'est à la réunion de Vienne que sera décidée concrètement la répartition de cette réduction de la production. Comment voyez-vous cette rencontre?
Voilà, le problème, c'est que l'Arabie Saoudite, ils veulent que l'Iran coupe sa production ou n'augmente pas la production. Et l'Iran, bien sûr, continue toujours avec un déficit de production. Et eux, ils voulaient remonter à leur production avant les sanctions américaines. Mais l'Arabie Saoudite veut qu'ils continuent avec une production réduite. Donc, les analystes vont suivre de près si l'Arabie Saoudite peut vraiment avoir un compromis avec l'Iran pour que tous les deux réduisent la production.
La surproduction de pétrole de l'OPEP visait à écarter du marché les pays non OPEP, notamment les producteurs américains de pétrole de schiste. Quel sera l'impact sur ces producteurs?
augmentation de prix, c'est bon pour eux, bien sûr. Ce qui a surpris la plupart des analystes, non, c'est que la production du pétrole de schiste américain n'a pas diminué comme on attendait. C'est-à-dire, quand le prix était à 110 dollars et la production de schiste montait chaque année aux États-Unis, les gens pensaient que quand le prix allait diminuer comme ça a diminué à 40 dollars, que la plupart des producteurs du pétrole de schiste allaient arrêter la production. Mais la plupart ont continué à produire.
Donc, ils sont là pour le long terme, ces producteurs de pétrole de schiste.
C'est ça qui paraît. Donc, les avances technologiques, et peut-être une fois qu'ils ont produit quelques millions de barils, une production importante, ils ont beaucoup appris sur comment continuer la production à moindre coût.
Michael Kevan, professeur d'économie à l'Université de Santa Clara, en Californie. Présidentielle américaine 2016, le vote par anticipation a déjà débuté dans un certain nombre d'États avec un intérêt accru cette année. Démocrates et républicains tentent d'en profiter. Question de se donner une longueur d'avance avant le grand face-à-face du 8 novembre. De nouveau, Timothée Donangmaï.
Tout à fait, Idrissa. Par courrier postal ou en se rendant dans les bureaux de vote, certains Américains votent déjà depuis le 23 septembre dans des États comme le Minnesota, le Vermont ou le Wyoming. Ceux de l'Illinois et de l'Iowa sont entrés dans la danse électorale jeudi. La candidate démocrate Hillary Clinton est de retour dans l'Iowa pour une tournée dans 10 localités. Elle espère répliquer dans cet État la stratégie victorieuse du président Obama il y a 4 ans en envoyant un maximum de ses électeurs aux urnes avant le scrutin du 8 novembre. Certes, les projections lui sont favorables, mais les démocrates redoutent une baisse de régime de leurs militants, dont pourrait prendre avantage le républicain Donald Trump dans la dernière ligne droite. Hier à Des Moines, Mme Clinton a exhorté ses partisans à aller voter. Cela pourrait nous placer dans la voie de la victoire ici dans l'Iowa, a-t-elle lancé. L'agence Associated Press rappelle qu'en 2012, 4 électeurs de l'Iowa sur 10 étaient allés voter lors du scrutin anticipé. Les chiffres compilés jusqu'ici par la même agence suggèrent que jusqu'à 40% des Américains pourraient voter par anticipation cette année, alors que ce taux était de 35% en 2012. D'où les efforts déployés par les deux principaux partis pour capter ces suffrages avant le duel tous azimuts du 8 novembre.
Alors que Mme Clinton ratisse large, s'adjoignant dans sa campagne son rival malheureux des primaires, à savoir le sénateur Bernie Sanders, le républicain Donald Trump, Tim, continue de se concentrer sur les cols bleus, sa base et le véritable moteur de sa campagne.
Toujours aussi sûr de son instinct politique, Trump a balayé d'un revers de main les sévères critiques de sa prestation au premier débat, des critiques venant autant de ses partisans que de ses adversaires. Dans une concession aux républicains estimant qu'il ne s'était pas bien préparé, son équipe de campagne et la direction nationale du parti ont lancé un sondage demandant, par exemple, si le porte-étendard républicain doit, lors du deuxième face-à-face le mois prochain, critiquer Mme Clinton sur la lutte contre le terrorisme, la politique économique et le commerce. Une question qui est sûre de susciter un oui enthousiaste des militants, fait remarquer Associated Press. Jeudi, Donald Trump et Hillary Clinton ont pris une minute dans leur campagne pour adresser leurs condoléances et leur soutien aux victimes de l'accident de train survenu dans la matinée dans l'État du New Jersey et qui a fait un mort et une centaine de blessés.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.